Bonjour David, bonjour à tous. Au cœur de tractations politiques intenses, nous avons sollicité l'analyse experte du politologue Dominique Breya, vous l'entendrez. En début de journal, le département des Deux-Sèvres va investir 180 000 euros pour voir passer la flamme olympique en 2024. L'opposition a voté contre hier. Privée de financement pour des actions de communication, la Confédération paysanne dénonce les méthodes de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres. Et puis à Thouars, les grandes manœuvres sont lancées pour repeupler le commerce du centre-ville. La cour d'assises des Deux-Sèvres a prononcé une peine de 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre d'un homme de 35 ans reconnu coupable du meurtre d'un homme de 27 ans en septembre 2018 à Niort, rue Mélèze. L'enquête progresse suite à la mort d'un homme de 68 ans le 22 juin, la semaine dernière, à Frontenay-Rouen-Rouen sur la départementale 611. La victime qui circulait à scooter avait été percutée par une voiture ayant pris la fuite. Selon le courrier de l'Ouest, une personne demeurant sur le bassin niortais a été interpellée. Une collision s'est produite hier après-midi sur la départementale 725 au lieu-dit le pont de Barou à Hervaux entre un poids lourd et un camping-car dont la conductrice, 74 ans, vraisemblablement victime d'un léger malaise, a quitté sa voie de circulation. Pour éviter le choc frontal, le conducteur de l'ensemble routier a terminé sa course dans le fossé. Sérieusement blessé, l'homme de 51 ans a été héliporté vers le CHU de Poitiers. Son pronostic vital était engagé. Une petite trentaine de sapeurs-pompiers sont intervenus hier après-midi à Nueil-des-Aubiers, au lieu-dit le Magny, pour un feu impactant des champs de luzerne et des prairies sur une surface de 13 hectares et 1600 mètres de haies. Plus de 8 heures d'intervention pour les pompiers qui ont été aidés par les agriculteurs. Un nouveau gouvernement doit se former cette semaine. C'est en tout cas la mission confiée par Emmanuel Macron à Elisabeth Borne, confortée à Matignon par le chef de l'État. Et ce n'est pas vraiment une surprise pour l'universitaire et politologue poitevin Dominique Breya, qui soulignait ce matin sur Colline le caractère inédit de la situation. Alors que s'ouvre aujourd'hui la législature avec l'élection du président de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, est pressenti pour la majorité présidentielle. Jeudi se tiendra le vote pour la présidence de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, ce poste qui revient traditionnellement à l'opposition, selon la tradition républicaine, est très convoité. La NUP, comme le RN, le revendique. Dominique Breya.
Si on s'en tient à une analyse strictement numérique, c'est le Rassemblement national qui aura le groupe le plus important. En revanche, si on tient compte des alliances qui ont été formées lors des élections législatives, là, c'est la NUP. Et donc, il va y avoir sans doute une possibilité, peut-être, d'agir à ce sujet. En tout cas, le résultat sera intéressant.
Emmanuel Macron et Elisabeth Borne vont devoir trouver des alliés au Parlement. Les Républicains peuvent jouer un rôle important, estime Dominique Breya.
Dans tout cela, en effet, on parle de trois pôles. On oublie quand même que les Républicains ont réussi à avoir un nombre tout à fait intéressant de députés et que, précisément, ce seraient sans doute eux qui seraient les plus capables d'être l'élément d'appoint nécessaire pour que le gouvernement de Mme Borne puisse trouver une majorité au Parlement. Il apparaît qu'il n'y a pas une unité totale au sein des Républicains et que peut-être on essaiera de jouer sur certaines divisions. C'est-à-dire que Mme Borne pourrait essayer d'avoir à la fois une partie des Républicains et aussi une partie des députés, disons, divers gauches ou même de certains de gauche élus avec l'étiquette de la NUP, mais qui ne souhaite pas être soumis aux directives de Jean-Luc Mélenchon.
L'universitaire et politologue poitevin Dominique Breya. Le conseil départemental des Deux-Sèvres a voté hier un relèvement du taux directeur des EHPAD à 1%. Il était gelé à 0,4% depuis 2016. Concrètement, cela veut dire 620 000 euros supplémentaires par an pour les EHPAD. Hors établissement lucratif, la collectivité va également prendre en charge 50% des surcoûts énergétiques, soit une enveloppe de 1,4 million d'euros. Le département qui va débourser 180 000 euros pour le passage de la flamme olympique en 2024, l'opposition a voté contre, estimant qu'il aurait mieux fallu injecter cette somme dans le secteur associatif. Pour François Gingros, élu chargé des sports, il était impensable de ne pas s'inscrire dans la dynamique des JO de Paris.
Ce parcours de la flamme olympique, il correspond aux Jeux olympiques d'été qui n'arrivent qu'une fois tous les 100 ans en France, hein, puisque la dernière fois c'était en 1924. Ils ont fait le choix de l'ouvrir à l'ensemble du territoire français et de permettre à l'ensemble des Français de participer à cette fête, qui est une fête du sport, mais pas que. Le parcours de la flamme doit permettre de mettre en valeur l'ensemble du territoire dans toutes ses composantes, que ce soit au niveau sportif bien sûr, mais aussi au niveau culturel, au niveau patrimonial.
Les 180 000 euros, elles correspondent uniquement au droit d'entrée pour le passage de la flamme ou ça correspond aussi à un budget pour des animations ?
Ça ne correspond pas à des animations que nous allons mettre en place, mais le comité olympique va mettre quelques animations en place au niveau du parcours de la flamme et ces animations seront complétées par d'autres que l'on va préparer avec l'aide des collectivités et des associations du territoire.
Et le département des Deux-Sèvres va d'ailleurs recruter un chargé de mission pour animer le territoire en marge de la Coupe du Monde de rugby en 2023 et des Jeux Olympiques en 2024. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de cœur d'eau, le problème technique étant résolu. La piscine de Bressuire peut rouvrir ses portes au public dès demain, mercredi 29 juin, aux horaires habituels. La Confédération paysanne dénonce les méthodes de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres. Le syndicat avait sollicité un soutien financier concernant des actions de communication et des animations, mais s'est vu adresser une fin de non-recevoir. Benoît Jaunet, porte-parole de la Confédération paysanne.
On nous a refusé le financement d'actions de communication, alors que ça fait plusieurs années que nous fonctionnons comme ça. La Chambre d'agriculture encourage les acteurs agricoles à avoir une dynamique agricole. Et là, par divergence de points de vue, aujourd'hui, a décidé de couper le financement en termes de communication à la Confédération paysanne.
C'était pour quel type d'action de communication ?
Alors, les salons à la ferme, le spectacle que nous faisons tous les ans, et là, c'était les zygomatiques à Secondigny. Et puis après, notre fil d'infos hebdomadaire que nous envoyons aux adhérents et sympathisants du monde agricole.
Soit un manque à gagner d'un peu plus de 4000 euros. Pour Benoît Jaunet, il est clair que la Confédération paye son non-alignement sur la ligne majoritaire, en clair sur la ligne définie par la FNSEA, dont les élus sont majoritaires à la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres.
On a su nous rappeler dès le début qu'on était minoritaire, et donc nous n'intervenons pas dans la gestion de la Chambre d'agriculture. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes en divergence, entre autres sur le point des bassines, des méga-bassines, aujourd'hui, ils disent, ce que vous faites n'est pas aligné avec l'envie de la Chambre d'agriculture, donc on vous supprime le financement. Et j'ai eu l'occasion de leur rappeler que quand certains syndicats font des dégradations sur les préfectures, sur les voiries, les ronds-points, centre des impôts de Bressuire, tout le monde s'en rappelle, là, il n'y a pas de subvention de retirer. Donc là, nous, aujourd'hui, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe, parce que si on veut soutenir une polarité et qu'on dit que c'est une chambre où l'ensemble de la profession agricole est représentée, nous demandons à ce que l'ensemble de la profession agricole soit soutenue pour sa pluralité et ses différences.
La Confédération paysanne demande donc au service de l'État de bien vouloir intervenir. La dette de la ville de Niort a diminué de 23%. Entre 2021 et 2014, selon les données présentées hier soir en conseil municipal, le dernier avant la trêve estivale. À Mauléon, au moment de présenter les travaux entrepris sur les remparts et les tours du château, la municipalité a fait le point sur les différents travaux engagés dans les communes déléguées, sans doute pour rappeler que chacun bénéficiait des efforts d'investissement. Tour d'horizon avec Claire Pollic, première adjointe au maire.
Sur les communes associées de Mauléon, on a un certain nombre de chantiers d'engagés. Donc, je pense notamment à Saint-Aubin-de-Bobigné, où là, on vient de finir une tranche d'enfouissement de réseau électrique. Sur la commune associée de Moulins, où là, on a une réflexion qui a été engagée sur toute la traversée du centre-bourg. Là, l'idée étant de réaménager l'espace public en y intégrant les enjeux de déplacement doux, de stationnement, etc. Donc là, on a mené tout un travail avec les habitants sur la traversée de Moulins. Et là, désormais, on est un petit peu en phase d'attente le temps que l'agglo réalise les travaux d'assainissement en préalable à nos travaux d'aménagement. On a aussi sur Loublande un chantier qui est en cours au niveau du centre-bourg, là également, une phase de travaux d'assainissement qui vient de se terminer, des travaux d'eau potable à venir, et enfin nous requalifierons l'espace public dans la foulée, sachant que sur Loublande, on a une réflexion aussi sur un périmètre un peu plus élargi, puisqu'on y a intégré du foncier disponible en vue d'y créer un nouveau quartier de vie. et puis sur le temple, là aussi, donc un chantier démarré au niveau du carrefour principal de la commune, enfin du bourg du temple, avec des travaux de réseau qui sont en cours.
Un programme de travaux au long cours, pluriannuel, comme l'a souligné le maire Pierre-Yves Marolo.
C'est dans notre plan pluriannuel d'investissement d'ici 2026. Tous ces travaux, logiquement, mais vous savez bien qu'on est dans une période un peu incertaine, devraient se réaliser. Et puis c'est ce que je précisais aussi, on a tout un travail qui se fait sur un autre quartier de Mauléon, c'est autour de l'hôpital et de la maison de retraite. La maison de retraite, normalement, devrait être terminée en juillet 2023 uniquement pour les personnes âgées. Les adultes handicapés viendront un peu plus tard, un an après. Et autour, on va agrandir la résidence personnes âgées autonomes, ce qu'on appelle le chemin vert, qui va passer de 15 appartements à 25 appartements rapidement. Également, tout à côté, l'ancien bâtiment Lidl, enfin, logiquement, qu'on devrait racheter au printemps prochain avec la maison de santé, revoir un peu l'organisation de ce quartier, qui sera forcément un quartier avec beaucoup d'allées et venues, mais ce qui nous réjouit parce qu'il est aussi en centre-ville.
À Pierre-Yves Marolo, le maire de Mauléon. À Thouars, les grandes manœuvres pour repeupler le commerce du centre-ville ont débuté. La rue commerçante, la rue Porte de Paris, a quasiment terminé sa mise en beauté puisqu'elle va être totalement remise en circulation dans un cadre rénové ce jeudi soir. Pour les prochaines semaines, ont été annoncées des échoppes de vêtements dans le multimédia ou dans les sports de glisse, sans oublier un projet de commerce alimentaire. Pour encourager les vocations, la ville va mettre à la disposition des commerçants hésitants une boutique test. Les explications d'Anne Selin, chargée de l'opération au micro-colline de Dominique Yao.
Nous envisageons dans l'accompagnement donc, qui sera fait auprès des porteurs de projets qui souhaitent ouvrir une boutique sur Thouars, tout au moins pour certains qui ont des concepts un peu innovants. Une boutique sera mise à leur disposition dans des conditions très favorables et qui leur permettront donc de tester leur concept sur Thouars. Le but étant bien évidemment qu'à la suite, ils prennent une boutique durable.
Et si la rue gagne en esthétique, il reste encore des progrès à faire pour restaurer tous sont cachés et là aussi la ville de Thouars propose des aides à la rénovation à un fonds vitrine.
Le fonds vitrine existait déjà, il est en cours de refonte justement pour être plus attractif et puis aider plus fortement les commerçants. Alors les commerçants déjà installés qui souhaiteraient refaire leur vitrine, tout comme les nouveaux arrivants. Sur le plan esthétique, nous prévoyons la rédaction d'une charte qui va définir ce qui est acceptable ou pas, sachant que nous portons particulièrement l'attention sur l'esthétisme des boutiques et de la rue dans sa globalité.
L'implication du Club des commerçants de Thouars, tant pour l'accueil de nouveaux professionnels que pour la création d'une nouvelle ambiance, sera essentielle dans le succès de la politique de reconquête. Le maire Bernard Pénault ne cache pas qu'il donne sa confiance au bureau co-présidé désormais par deux jeunes commerçantes, Elisabeth Moineau et Angélique Niort.